Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Orlando, pour le film Dalida, dans les salles le mercredi 11 janvier.
Alors d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année, parce que, écoutez, moi j'arrive de 2016, je suis plutôt pas mal passé, et en 2017, on me dit que ça se passera encore mieux. Orlando, comment ça va?
Mais ça va très bien, et donc j'ai saisi l'occasion aussi pour souhaiter une très très bonne année à tous les auditeurs de MFM.
Et bonne année à vous, mon cher Orlando. Ça fait quelques mois que nous nous connaissons.
Oh, oui, quelques semaines, voilà.
Je pense à une chose. Le film sort la semaine prochaine.
Oui.
Avant d'aller un peu plus loin dans l'interview et de commenter les mots pour parler de Dalida, qui a eu l'idée de ce film?
L'idée?
Oui.
Non, le film, ça veut dire que ça fait déjà il y a 5 ans que des producteurs américains étaient venus me voir, voulaient coproduire avec la France une biopic d'Aïda, sauf qu'il s'est avéré qu'ils n'étaient pas les gens de la situation. Ils vivaient à Los Angeles. Les scénarios qu'on m'avait présentés étaient loin de coller à la vérité historique de Dalida, et les réalisateurs encore moins. Donc, à 3 ans après, je m'y stoppe. Et Julien Madon, qui est le coproducteur d'Elisa Zoulos, avec Pathé Cinéma, Jérôme Sédou, n'avait jamais lâché l'affaire. Il me téléphonait continuellement, et puis quand l'autre affaire est tombée à l'eau, donc on s'est rencontré avec Lisa Zoulos, et là, c'est né le projet de nouveau à nouveau, à zéro.
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamaccio, Jean-Paul Rouve et Nicolas Duvauchel. C'est mercredi
et
prochain.
Et tu me cites, oui.
Alors, je vais vous poser la première question. Est-ce que le film vous plaît ?
Énormément, parce que tout le monde connaît mon front parlé.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, et si je n'avais pas aimé, je ne me serais pas privé de le dire. Non, franchement, c'était, vous savez, une biopic, c'est toujours un coup de poker, un coup de chance, parce que c'est très difficile de réaliser une biopic avec des gens qui ont vraiment connu l'histoire et tout ça. Et puis, la plupart du temps, les gens qui interprètent un artiste, une femme ou homme, ils ont tendance à devenir des caricatures ou d'imiter l'artiste. Ce qui n'est pas du tout le cas. Sveva Alviti, c'est la grande révélation de ce film. Et les gens qui ont eu la chance de voir l'avant-première, ils lui produisent une très 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 grande carrière, même qu'avait dit A Star is Born. Donc franchement, elle n'a ni fait une caricature, ni une imitation de Dalida. Et pour répondre à votre première question, le film, oui, il me plaît beaucoup parce que je trouve qu'Elisa Zoulos a trouvé le temps juste, le rythme, le bon tempo et surtout... On a voulu ensemble, puisque j'ai quand même collaboré sur le scénario. Et une fois qu'on a trouvé, d'être le plus près de la colonne vertébrale de la vie de Dalida, j'ai laissé totalement la liberté à Lisa Zoulos de faire le film et réaliser le film qu'elle voulait faire.
Voilà, Lisa Zoulos qui est la réalisatrice de ce film qui s'appelle tout simplement Dalida. Alors, il y a quelques mots qui ont été choisis. Contrairement à d'habitude, ce sont nos invités, car dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai Didier Barbelivien pour nous parler de Delpech. On rend hommage à la fois à Dalida et à la fois
à Michel.
À Michel, qui nous a quittés au début de l'année 2016.
Ouais.
Alors, en slide, comme on dit, originalité. Ce mot n'a pas été choisi par moi, il a été choisi par vous. C'est quoi l'originalité de votre sœur? C'était quoi?
Eh ben d'abord, en 2 mots, elle était unique. C'est pour ça que de génération en génération, vraiment, ils tombent en amour, comme ils disent les Québécois, avec elle. Mais je pense que surtout, pour être vraiment, et pour qu'on arrive à s'occuper, à intéresser la vie de quelqu'un, je pense que la vie de la femme doit être à la hauteur de la vie de l'artiste. Et de ce côté-là, je pense que Dalida, rien que par la dualité qu'elle a eue entre la femme publique et la femme privée, on a voulu avec Lisa Zoulos rendre justice aux deux.
Oui, mais vous qui avez vécu à ses côtés, est-ce que c'était une femme avant-gardiste? Est-ce que c'était quelqu'un, parce que j'ai eu l'occasion de faire, et grâce à vous d'ailleurs, quelques émissions avec votre sœur, et je la trouvais extrêmement... dans les idées, dans la façon d'interpréter, dans la façon de voir les choses, très avant-gardiste.
Exact. Elle était moderne, très, très moderne, dans un temps qu'il était un peu moins. Ce n'est pas ma phrase, c'est la phrase de Lisa Zoulos, je ne m'approprie jamais la phrase des autres, c'est vrai. Elle était en avance sur son temps, et moderne dans un temps qui n'était pas nécessairement à l'époque. Elle a été une passionnaria. Elle a pris vraiment, quand elle avait quelque chose, elle a souvent pris de position pour plein de choses, de faits de sociétales, de société. Et surtout dans la façon de s'habiller, d'interpréter. Quand elle est arrivée, elle a donné un coup de poussière au Music Hall. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Bruno Cocatrix. J'aime bien citer les auteurs des phrases. Et à l'époque, il avait dit, heureusement que Dalida est arrivée, parce que sinon, bientôt, au Music Hall, on aurait été écouté avec les yeux fermés, les chanteuses ou les chanteurs. Elle a été souvent la première des premières fois.
Ça fait partie du film, Besame Mucho, on va l'écouter. C'est Dalida, vous êtes sur MFM Radio. C'est Orlando qui est dans le film. Vous êtes content de votre interprétation?
Ah, je ne pouvais pas rêver mieux, pourquoi?
Qu'est-ce que vous interprétez?
J'ai toujours Riccardo Scamarcio, qui est vraiment la star numéro un en Italie, et même il vient de terminer 3 films aux États-Unis. Et j'avais pensé à lui parce que j'ai toujours eu une grande admiration. Vous savez, c'est pour nous les Français, il avait fait le film Romanzo Criminale, que c'était un chef-d'œuvre. Et bon, donc j'avais pensé pour le rôle de Luigi Tenco. Ouais. Et lui, quand il a lu le scénario, il a dit je fais le film, mais je veux interpréter le rôle. Ouais. Je trouvais que c'était plus petit. Voilà.
On écoute tout de suite donc Dalida, Besame Mucho.
Midi 13h, samedi Sabatier, l'interview sur MFM Radio.
Ça sort la semaine prochaine, mercredi prochain, Dalida. Et c'est un film de Lisa Azuelos. On a la chance d'avoir Orlando, son frère. Et quand à un moment donné, on disait, c'est pas elle, c'est lui. Vous êtes Dalida. Ça vous faisait plaisir ou pas?
Comment, c'est-à-dire, elle ou lui, je sais pas.
Vous êtes tellement proche de votre sœur que on disait, ses réponses sont celles de sa sœur.
Non, disons plutôt qu'on, même si j'avais, elle avait quelques années d'avance sur moi, on s'est senti toujours comme des jumeaux. D'ailleurs, à l'époque, la presse disait qu'on Dalida son rhume, c'est Orlando qui tousse. Ouais. On a été très près, mais c'est pas pour ça que chacun avait, on s'en portait. Et ce qui est merveilleux, parce que Dalida n'aimait pas les lèches. Vous savez,
elle voulait pas un béni, oui. Elle voulait quelqu'un qui lui dise
absolument
la vérité.
Elle voulait un miroir qui la contredit. Et moi et Rosie, sa cousine, Dalida, c'était pas une personne qui aimait beaucoup de gens autour d'elle. Quand elle faisait confiance, elle ne voulait pas être trahie, elle ne voulait pas être déçue. Et donc, moi et Rosie, on était un peu son miroir. Et quand il n'allait pas quelque chose, on lui disait, elle voulait qu'on lui dise, même des fois si on s'attrapait parce qu'elle n'était pas d'accord. Mais c'est ça aussi la passion. Et c'est ça, je pense que la réussite, c'est toujours une réussite d'équipe aussi.
Un autre mot, élégance.
Oui. Alors, mais je crois que
tous ces mots lui conviennent, c'est vous qui les avez choisis, mais c'est vrai qu'on a vu à la fin de l'année 2016, sur France 3, il y avait toute une émission hommage aux Carpentiers, où on voyait Dalida, et notamment le chef costumier qui disait que quand Dalida était intervenue chez les Carpentiers, au début elle avait toujours une robe blanche, etc., et qu'il lui avait donné goût à se montrer, parce que tout compte fait, il y a un paradoxe, en tout cas c'est ce que j'en ai retiré, mais vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Votre sœur était extrêmement réservée. C'était quelqu'un qui avait une carrière publique, qui montrait son corps, etc., et qui en même temps était très pudique.
Exact, pudique et humble. Mais disons que la période dont le costumier qu'il a parlé, c'était Michel Frenet. Voilà, exactement. C'est Michel Frenet qui habillait, lui, toutes les artistes qui était chez les Carpentiers. Et donc, l'image qu'il a donnée de Dalida, c'est parce que Dalida sortait d'une période un peu madone, un peu chanteuse de grands textes. C'est-à-dire que toutes les expériences de sa vie dans ses drames personnels, elle l'avait mis au service de son art. Et c'est à partir de ce moment-là, comme il a dit Bruno, Madame de la Grande Chanson a fait son apparition et a dit au revoir à Mademoiselle Bambino qui avait chanté tous les airs de son époque. Alors, pour revenir à ce qu'il disait Michel Frenet, Dalida, donc, elle avait remis à la mode la robe longue, toute blanche, très comme Phèdre, un peu, tout à fait, et chantait des chansons avec le ton de Léo Ferré. Elle a commencé à chanter « Je suis malade », toutes les chansons de grands textes. Et c'est pour ça que ce n'était pas des chansons à chaud. Mais par contre, Dalida, c'est bien qu'il dit ça, mais Dalida avait déjà commencé à bouger sur scène bien avant. Mais par contre, sortait de cette période-là, chanteuse à texte qui n'avait pas besoin d'évoluer avec des gestes ou sur la scène.
Ouais. Autre mot, Autre mot, allez-y, mon cher Orlando. Le mot beauté. Alors, évidemment, moi, j'ai plus envie de parler de sa beauté intérieure, de ce qu'elle était réellement. Et je vais vous poser la question peut-être un petit peu brutalement. Est-ce que, et m'en veuillez pas, est-ce que sa disparition vous a surpris? Est-ce que vous, on se connaît depuis suffisamment longtemps, je peux me permettre de vous la poser comme ça, est-ce que vous, vous avez étonné ou est-ce qu'on pouvait l'imaginer?
Vous savez, vous avez bien raison de dire, bon, Dalida, sa beauté extérieure, tout le monde la connaît parce que ça se voyait, c'est plus facile à voir. La beauté intérieure qu'elle avait réellement, c'était son jardin secret. Et c'était pas une femme qui s'est, comment dirais-je, s'exposer ou qui s'est racontée.
Même à vous.
Je voulais dire que plus souvent, c'est les autres qui ont raconté sa vie qu'elle-même, sauf au moment qu'elle avait été voir, qu'elle a passé un moment après son premier, le suicide de son amoureux Lujitenko à San Remo, qu'elle a voulu le rejoindre un mois après. À partir de là, elle est sortie une nouvelle Dalida avec une soif de connaissance, qu'elle avait besoin d'une nourriture autre, une nourriture de l'esprit, de la connaissance, de l'élevage. Et cette Dalida-là, on le sentait parce que quand on vit à côté de quelqu'un, automatiquement, on ressent les choses, surtout quand on était tellement proche de quelqu'un, pas simplement comme le producteur, mais surtout comme le frère. Voilà, et frère qui en plus,
alors,
un peu confident.
Je vous repose la question, pardonnez-moi, est-ce qu'on pouvait imaginer cette fin-là?
Mais parce que j'arrive à dire, étant donné qu'on a suivi toutes les étapes de cœur d'elle, donc même celle-là, même si on ne l'a pas sauvée, on l'a vécue. Alors, le faire ou pas faire, vous savez, quand quelqu'un a décidé de faire quelque chose, surtout que Dalida, c'était une femme de tête, elle a toujours choisi tout. Elle a choisi même son départ. On a été, dans la dernière année, spectateur, mais qu'on ne pouvait rien faire. Parce que Dalida, elle avait dit, oh, toi, tu t'occupes de ma carrière, de ma vie privée, je m'occupe moi-même. Mais quand Dalida fermait sa porte, c'était pas facile de la réouvrir. Hein.
On écoute Dalida mourir sur scène. Vous êtes sur MFM Radio.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Orlando, pour le film Dalida, dans les salles le mercredi 11 janvier.
Je ne m'y attendais pas, mais je suis ému de vous avoir à côté de moi, parce que, évidemment, je pense aux nombreuses émissions que j'ai faites avec votre sœur.
Et comment?
Et quand j'étais allé la voir, pour préparer notamment le jeu de la vérité, etc. Et à chaque fois, on avait l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui était, alors vous allez me dire si je me trompe, à la fois très à l'écoute de l'autre et à la fois aussi ailleurs, comme si elle avait plusieurs vies.
Votre analyse est très, très juste. Parce que c'est vrai que Dalida, qu'elle était souvent à l'écoute des autres, et surtout à l'écoute des autres, pour s'ils avaient des problèmes, elle était très compréhensible. Oui. Et en même temps, ça nous arrivait souvent au cours d'un dîner, qu'elle était avec nous, qu'on rigolait, qu'on parlait, qu'elle s'intéressait à tout. Et tout d'un coup, elle n'était plus là. Mmh. Je parle physiquement, elle était là. Mais elle était... Mmh. Et là, on se regardait, là, nous, les amis, qu'on la connaissait vraiment très bien, on disait, elle est partie ailleurs. Elle partait ailleurs, dans son monde, et elle revenait.
Mesdames et messieurs, on pourrait parler des airs avec Orlando. Ça fait combien de temps qu'elle est partie, Dalida?
Eh bien, ça vient de faire, nous venons de rentrer dans l'année 2017. Ça va faire 30 ans déjà qu'elle nous a quittés.
Incroyable.
Eh oui, elle est toujours présente, c'est ça qui est incroyable. L'amour du public, ces liens d'amour qu'ils ont tissé tout au long de sa carrière et après, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui m'émeut beaucoup.
Vous avez rendez-vous avec la grande dame, c'est mercredi prochain. Et nous allons maintenant, dans quelques instants, recevoir Didier Barbolivien qui va nous parler de Delpech, Michel Delpech, qu'il a bien connu, pour lequel il a composé, il a écrit. Et voici donc le chanteur. Je vous remercie infiniment d'être passé au micro de MFM Radio. Et je vous le répète, elle est avec nous.
Oui, moi, j'étais heureux de... On s'est tutoyé, oui, de te revoir, oui. pour les auditeurs. Vous, moi, j'étais très heureux vraiment de passer cette heure avec vous, avec les auditeurs. Encore une fois, je leur souhaite le meilleur pour cette année qui commence. Et allez voir tous, mercredi, le film de Dalida, ça vaut le déplacement.
Voilà, dans quelques instants, juste après le chanteur Didier Barbolivien sur l'antenne, donc de MFM Radio. Merci encore, Orlando, merci.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Didier Barbolivien, à l'occasion de la sortie de l'album « Amour de moi ».
Alors, Amour de moi, on va en parler dans un instant. Je suis content de vous présenter, si je dois le présenter maintenant, mais c'est la première fois que nous nous rencontrons en 2017.
C'est vrai. Alors, je peux encore te souhaiter une très très belle année.
Alors, qu'est-ce que je
peux te souhaiter à tous, au public qui nous écoute, à tous les Français.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi qui a écrit les superbes plus belles chansons? Est-ce qu'on peut encore écrire? Est-ce qu'on peut toujours réinventer? Est-ce qu'on peut réinventer des mots?
Moi, j'ai cette faiblesse de le croire et de le penser. J'aime toujours autant l'écriture. Je veux dire, c'est un truc dont je ne suis pas blasé encore. Je ne sais pas si ça viendra un jour. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Alors, on se connaît depuis pas mal d'années, mais je ne t'ai jamais posé la question de savoir comment tu faisais. Tu es très discipliné, tu te mets tous les matins à ta table de travail.
À jamais. Je suis l'incarnation de l'indiscipline.
Et j'ai toujours une...
C'est marrant parce que toute ma vie, j'ai eu une image de Stakhanovis, de l'écriture, de mec qui était à fond pour écrire des tubes et tout ça. Pas du tout. Je suis l'inverse de ça. Depuis que j'allais à l'école, je n'ai aucune forme de discipline quotidienne.
Tu écris quand ça te vient.
Exactement. Voilà. Et je m'enferme et je ne parle plus à personne. J'écris.
On va parler dans un instant d'Amour de moi, mais on va aussi parler de Delpech, parce que Michel, il y a à peu près un an,
nous quittait.
Je lisais un bel article avec Baupin et toi dans le Parisien en 2016.
Je ne l'ai pas lu, mais je me souviens de ce déjeuner avec Alex Baupin.
Et où tu parlais de Michel Delpech. Alors, il y a des mots qui ont été choisis par toi, contrairement à d'habitude où c'est la production de l'émission qui les choisit. Alors,
on
slide. Voilà, musique. Alors, comment ça s'est passé avec la collaboration Barbelivien Delpech?
La collaboration, elle ne s'est pas passée à cause de chansons, bizarrement. Ben oui, ça s'est terminé par des chansons parce que, comme dit le proverbe, en France, tout finit toujours par des chansons. Mais elle s'est passée de manière amicale et de manière curieuse de ma part par rapport à lui. L'année où je l'ai rencontré, c'était en 1976. Donc c'était une grosse vedette de la chanson, on appelait ça comme ça à l'époque. Mais surtout, j'avais une énorme curiosité de ce monsieur qui écrivait d'une manière, pour moi, totalement nouvelle et moderne. Il avait pris ce virage avec Les Divorcés, déjà. Parce que le texte des Divorcés, on a l'impression qu'il raconte une histoire... dans un tel quotidien qu'on la vit de strophe en strophe. Après, il a continué avec Quand j'étais chanteur. Il a continué avec une chanson de lui que j'adore, qui s'appelle Ce lundi-là, qui est l'histoire d'un homme qui quitte sa famille, sa femme, ses gosses, machin. On ne sait pas où il va, on ne sait même pas. Lui-même, d'ailleurs, ne le sait pas. Ce qui est assez étonnant parce que ça préfigure un peu de la vie de Delpech qui va pas tarder à arriver. Et moi, je suis curieux de ce bonhomme. La première fois.
À l'époque, 76, t'es curieux, étonné.
Je dîne avec lui et Alain Chamfort, je me souviens, chez ma fiancée de l'époque, et Michel Pellet, qui était là, le compositeur. Et moi, je suis un peu fasciné de voir ce type qui a tout réussi, qui a tout, qui est intelligent, qui chante divinement bien, qui écrit bien et qui va mal. Qui va très mal psychologiquement.
On est en 1976,
cette époque-là.
C'est pas la période
heureuse. C'est l'année où il chante. C'est d'ailleurs l'année où il va pas enregistrer. C'est la seule année depuis dans le début de sa carrière où il n'y aura pas de disque en 76 de Delpech. En 77, il y aura le Loir-et-Cher.
Et comment ça se fait alors? Donc le rapprochement, tu le vois, toi qui est quand même très énergique, en même temps qui est pushy.
Je l'écoute, je suis attentionné, attendri par ce type qui raconte son mal-être, mais qui n'en fait pas des tonnes, qui se marre même, qui a le sourire quelquefois, qui se moque un peu de lui, qui est plein de dérision envers lui-même. Et qui te dit « j'ai tout, mais en fait j'ai rien ». Il dit « je suis un type qui n'a rien ».
Est-ce qu'il avait de l'humour sur lui-même ?
Énorme.
La dérision ?
Tout le temps. Mais sur lui et sur les autres. Moi, c'est... les derniers temps, je lisais dans des journaux quelquefois un portrait de Michel Delpech soi-disant remis dans la dépression. C'est absolument faux. Il n'y avait pas plus drôle que Delpech quand il se mettait à déconner. Et il aimait ça.
Alors, 1976, on va faire un bond et je vais vous expliquer pourquoi. De 40 ans, 2016.
Ouais, pile 40 ans.
Pile 40 ans. Mmh. 40 ans après ce premier rendez-vous, ce premier dîner, Delpech nous quitte. Mais t'es toujours parmi ses amis.
Oui, de loin en loin. Hein. C'est pas quelqu'un que j'ai fréquenté pendant 40 ans. Mais il n'y avait pas d'année où on ne se voyait pas, où on passait un bon moment ensemble ou des moments. Et bizarrement, nos chemins se croisaient même géographiquement. Les dernières années, on était carrément voisins d'appartements. On habitait à 30 mètres l'un de l'autre.
Là, je suppose quand même que sa maladie, qui était rendue publique, il la prenait avec moins de dérision.
Oui et non. On en connaissait l'issue et on avait des discussions comme je n'ai jamais pu avoir avec aucun ami en phase de disparaître. J'ai jamais...
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'on avait un langage de vérité par rapport à l'événement qui allait pas tarder, qui était assez particulier. On parlait très ouvertement de la mort et de sa disparition.
L'album là qui sort, il l'avait souhaité.
Tout à fait. Sa seule fragilité pour moi, mais il s'en rendait pas compte, Michel me disait toujours « Est-ce que tu crois qu'on va m'oublier ?» Je dis « Je pense pas. » Je dis « T'as trop donné pour qu'on t'oublie. »
Est-ce que toi qui as beaucoup écrit, tu as peur qu'on t'oublie ?
J'y pense quelquefois. Je serais un menteur de dire le contraire. Mais c'est pas, franchement, c'est pas ce qui me tracasse le plus.
Là, il y a le nouvel album qui s'appelle Amour de moi.
Amours au pluriel.
Amours oui. Au pluriel. Amour de moi. Quand on a tant écrit, et je le dis hein, depuis tant d'années, est-ce qu'il y a un moment donné, on a encore des choses à dire ?
Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai inventé ce que j'ai écrit pendant toute ma vie. Donc, quand tu inventes, tu as toujours des choses à dire.
Tu as fait du sur-mesure.
Voilà, mais j'ai fait de l'invention pour les autres. C'était d'inventer même mes propres chansons. Quand je chante Elsa, Elsa n'existe pas. C'est une invention de mon imagination. Beaucoup de mes chansons ont été comme ça. Là, c'est peut-être la première fois, oui, c'est mon premier album où je raconte des choses très personnelles. La maladie de ma mère... mes enfants, mon attachement pour la Corse d'une manière peut-être pas politiquement correcte, ce que je pense de la politique dans une chanson, et des médias dans une chanson qui s'appelle « Mon ange », où on ne s'attend pas du tout. Ça m'a fait rire après coup que cette chanson porte ce titre, parce que quand tu écoutes l'album, tu dis « Tiens, mon ange, ça doit être sympa ce truc-là ». Et tu écoutes et tu prends une énorme claque. C'est ça qui me fait rire. Mais j'aime bien m'inventer des trucs comme ça aussi, me faire des propres surprises à moi.
On va en parler dans un instant. On écoute Amour de moi, c'est l'album. Et c'est Didier Barbelivien qui est sur MFM Radio.
Midi 13h, samedi, Sabatier. Patrick Sabatier est sur MFM Radio. Samedi, Sabatier, l'interview.
Et surtout Didier Barbelivien. Alors, justement, pourquoi avoir fait un album à découvert ?
Qu'est-ce que tu appelles à découvert ?
Dire des choses de toi que moi je connaissais un peu.
Eh bien, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès.
Alors que jusqu'à présent, tu avançais masqué.
Masqué. Et la chanson peut-être la plus intime, celle qui traite de la maladie de ma maman, je l'ai écrite un après-midi et je l'ai enregistrée le lendemain pour être sûr que j'allais la faire. Parce qu'après, je me suis posé la question de la sortir ou pas. Je me suis dit... C'est intelligent de faire ça ou c'est débile de raconter ça ?
Et alors moi, je pose la question différemment. Est-ce que ça aide ?
Je me suis dit que ça pouvait aider, pas ma mère, hein, qui ne se rend plus compte de rien, pas moi qui maintenant, on est avec mon frère, on a assimilé l'histoire. Ça peut aider d'autres personnes. D'abord parce que au départ de cette maladie, on met du temps à comprendre que c'est une maladie. On a plutôt tendance à se dire quand même, elle exagère, ma mère. Hein. Elle pourrait faire un effort. Non. Les gens atteints, ça commence par des signaux que la famille ne voit pas forcément. On se dit, elle a encore perdu ses clés, mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait avec les clés? Et la carte bleue, et par les lumières allumées, et ainsi de suite. On se dit quand même, elle pourrait être un peu plus attentive. On voit pas comment ça part en vrille complètement.
Alors, un album qui parle de toi, qui parle de ta vie, qui parle de tes opinions.
De mes opinions.
De tes engagements.
Oui.
De la dérision que tu as par rapport à certaines choses.
Oui, et puis quelquefois des opinions que je ne cherche pas à exprimer forcément, mais ma chanson sur la Corse, on m'a fait remarquer, on m'a dit peut-être tu devrais changer les paroles du refrain. J'ai dit pour quoi faire ? Il me dit parce que ce que tu dis dans le refrain quand même, que la Corse en elle-même est un pays en soi, je dis je le pense, je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas, je veux dire.
Mais là, ce n'était pas politiquement correct. Alors, on parle de la Corse, on parle de toi, je voudrais maintenant qu'on revienne aussi à Delpech, parce que je voudrais mêler tout ça. On va passer dans quelques instants, ce sera le dernier disque de la journée de Loir-et-Cher, enfin de l'émission. Donc, on parle d'un autre coin, des racines, là encore.
Oui.
Est-ce qu'avec Delpech, vous parliez un petit peu de vos vies, de vos racines, de ce qui vous réunissait?
Oui, mais tu sais, on finissait par se connaître assez bien, donc on évoquait plutôt, on aimait bien se souvenir de ce qu'on était quand on était très jeunes. On aimait bien ça. Ça nous faisait plaisir, nos goûts, nos bêtises aussi, notre naïveté et nos enthousiasmes aussi. Par exemple, les Beatles, on n'en a jamais été guéri. On aurait pu en parler pendant des jours, des semaines, des mois.
Toi, tu as été un enfant heureux ?
Non, j'ai détesté être un enfant, moi. Mais c'est très personnel. Lui, Michel, avait beaucoup de pudeur à parler de ça. Je pense pas qu'il ait été non plus un enfant et un adolescent heureux. Mais dans beaucoup de... Comment ? De mes confrères... Il n'y a pas beaucoup de... Je connais très peu d'artistes qui étaient des enfants heureux. Très peu.
Toi qui as beaucoup écrit, et je te regarde là en racontant les histoires des autres, parce que tu as fait aussi... Tu as raconté les histoires des autres en écrivant les chansons.
Oui, bien sûr.
Est-ce que tu t'es inspiré des histoires des autres pour mieux vivre toi-même ?
Non. Moi, à partir de l'âge de 15-16 ans, quand je me suis affranchi de la tutelle des parents, de l'image de la société, de ce qu'il fallait être, de la réussite sociale et tout ça. Après, non, j'avais pas de problème avec la vie, j'étais moi-même en pleine liberté.
Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2017 ?
De garder une bonne santé. À partir de là, tout est possible.
Excepté ce qui arrive à ta maman, mais... Elle ne le sait plus.
Non, elle ne le sait plus. Voilà. C'est ce que je raconte dans la chanson. Ça, elle a fini par rejoindre l'histoire de la chanson.
Est-ce que toi, tu es apaisé et heureux ?
Apaisé, je pense que l'ancien jeune homme que je suis ne peut pas l'être. Mais heureux, je le suis beaucoup plus qu'autrefois. Ouais. Disons que ça passe plus souvent, le bonheur. Le bonheur, on sait bien que ça rentre par la porte et ça ressort par la fenêtre, mais disons qu'il visite plus souvent l'intérieur de ma tête.
Le Loir-et-Cher, Michel Delpech.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Didier Barbelivien, à l'occasion de la sortie de l'album Amour de moi.
Un dernier mot, n'importe lequel, pour terminer l'émission. Lequel choisis-tu ? Solitude,
J'sais
mélancolie.
Pas, j'aime bien ces deux-là. J'aime les trois là. Tiens, là. Parc Monceau, mélancolie, solitude. Allez hop, je vous fais les trois en un.
Solitude.
La solitude, c'est quelque chose dont j'aimerais pouvoir me détacher. Et à l'intérieur de ma tête, je m'en détache pas souvent.
Après, il y a le mot mélancolie.
Mélancolie. Eh bien, c'est un très joli mot.
Oui.
D'abord, si j'avais... j'aurais pu appeler une de mes filles mélancolie. Mais après, c'est trop lourd, quoi. Tu vois, dans la cour de récré, mélancolie, nanana, bon. Je trouve que c'est un très joli mot. La langue française, elle a des mots, elle a des sons comme ça qui sont magnifiques.
Mélancolie, ça veut dire que on regrette un petit peu le passé.
Non, c'est la nostalgie, ça, plutôt. Oui. La mélancolie, c'est un état d'âme. C'est êtes-vous, tu sais, cette expression que j'aimais bien quand j'étais adolescent. Ma grand-mère m'avait dit, parce que j'amenais des filles, des fiancées à la maison. Et alors, quand elle lui plaisait pas, ma grand-mère me disait, elle est pas un peu triste au balançoire, celle-là? Tu vois?
Belle réflexion.
Et bon, mais moi, j'aimais les filles mélancoliques, les grands cheveux à la Françoise Hardy, le regard qui se perdait dans les, tu vois?
Allez,
j'étais attiré par des filles comme
Parc
ça.
Monceau.
Parc Monceau, parce que le Parc Monceau, il fait un peu partie de mon histoire dans la mesure où j'ai toujours vécu autour du Parc Monceau. Aujourd'hui, j'y habite. Quand j'étais adolescent, j'étais au lycée Chaptal qui était pas loin. Dans mon dernier disque, j'ai même composé un instrumental qui s'appelle comme ça pour faire plaisir à mes enfants. Parce que mes enfants, elles me demandaient toujours de jouer ça à la maison. Tu sais, quand on te demande trois fois, t'as beau aimer le petit morceau, quand il faut le jouer trois fois par jour, t'en peux plus. Et donc, j'ai dit, bon, ben, je vais l'enregistrer, je vais leur filer le disque, comme ça, je suis peinard. Elles l'écoutent dans leur chambre, j'ai plus à le jouer au piano.
On va se séparer, en tout cas, momentanément, j'espère. Je suis toujours content de te voir.
Moi
et
aussi.
Je voudrais dire un truc, mesdames et messieurs, non, c'est que j'ai une totale admiration et respect pour le travail que tu as fait et que tu continueras à faire. Car grâce à des gens comme toi et à toi en particulier, les chanteurs sont intervenus dans nos vies et nous ont accompagnés avec les paroles à vivre des moments importants et quelquefois à passer des caps. Donc merci beaucoup de les avoir écrits.
J'ai essayé de faire de mon mieux jusqu'à présent. Je promets même d'essayer de continuer.
Et ben moi, je promets d'essayer d'écouter encore. Voilà, alors l'émission est terminée. Ah non, pas totalement terminée, mesdames et messieurs, car vous le savez, on peut se retrouver très vite.
Retrouvez le meilleur de Samedi Sabatier, l'interview, dès maintenant sur mfmradio.fr, rubrique podcast.